Place à la lecture dans Il était une fois un livre.
Voir la merde qui s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça.
Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.
Bonjour à tous et à toutes. C'est avec plaisir que je retrouve notre invité à l'honneur cette semaine, qui est venu nous parler de son dernier roman, Cécile Marcadet. Avec ce roman, Les fleurs du passé renaissent parfois, et qui est édité aux éditions L'Harmattan. Bonjour Cécile Marcadet.
Bonjour.
Alors, il y a cette histoire, effectivement, c'est une histoire dans l'histoire. Ce personnage joue en couleur un aventurier du début du XXe siècle. Il est arrivé dans cette histoire, vous l'avez mis en scène par une héroïne de notre temps.
Oui.
Suite à un voyage qu'elle fait à Jérusalem. Est-ce que vous avez vous-même fait ce voyage à Jérusalem ?
Oui, oui. Tout à fait, oui. Je parle de quelque chose que je connais.
Parce que quand à la lecture, on le sent.
Ah ben oui, non, mais c'est... Oui. C'était même un voyage que nous avions... On y est allé plusieurs fois, et la dernière fois, on y est allé avec l'un de nos enfants et nos petits-enfants, sa femme, bien sûr. Et c'est les souvenirs dont je parle là, ce sont des souvenirs très, très proches, quoi.
Cette découverte du musée Yad Vashem, par exemple, ce que Églantine peut ressentir.
Oui, ce sont mes petites filles et mon fils, et nous, on l'avait déjà vu, et je traduis leurs sentiments, quoi. Même la perturbation que ça a entraîné. Je crois que ma belle-fille, elle savait plus comment elle s'appelait. Enfin, c'était très 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 dramatique comme visite. Mais je trouve que c'est indispensable aussi de connaître ça.
Et vous, la première fois que vous y êtes allée dans ce musée,
la première fois qu'on y est allée, il était moins grand que ça. Il y avait moins de documents. Et de documents physiques même. Mais on était avec des amis et je me souviens d'avoir pleuré en traversant comment on appelle ça, l'Holocauste des enfants. On entend tous leurs noms, c'est dans le noir, et on traverse une pièce, enfin, avec une résonance énorme. Et je suis sortie, mais j'étais effondrée, quoi. C'est vraiment oui. Ce que je ressens, j'ai pas pu ne pas le traduire. Enfin, je sais pas si je l'ai traduit comme il fallait, mais vraiment, ça m'a bouleversée.
Bah, on sent hein, que votre Églantine, oui. Elle aussi a été a été bouleversée, et c'est ce qui va amener après. Voilà. C'est comme ça. C'est par ce voyage que vous introduisez cette histoire de cet homme du début du XXe siècle,
voilà, oui.
Dont elle a retrouvé un manuscrit.
Oui.
Et elle va tenter de retracer,
de reconstruire
sa vie.
Que, voilà, la vie qu'il a eue, enfin, du moins une partie jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Après, elle n'en parle pas parce que c'est l'occasion d'un autre sujet dans ses études. Et c'est volontairement que j'ai pas voulu en parler, parce que ça a redonné un côté tragique à l'histoire que je voulais raconter, l'histoire de cet homme, qui était malgré tout une belle histoire, et voilà, ça faisait partie de son histoire, mais c'était trop profond et trop tragique.
En fait, vous avez gardé le côté aventurier, le côté
exceptionnel d'une vie de cette époque-là, d'une vie de curiosité et originale. Et j'ai pas voulu y mettre ce que tout le monde sait, parce qu'on en parle beaucoup, qui a fait l'objet d'autres livres. C'était pas mon propos. Mon propos, c'était de raconter l'histoire de cet homme dans ce qu'il avait de particulier. Et puis après, ben, ils ont vécu des choses dramatiques pendant la Deuxième Guerre. Mais ça, ça fait partie de la grande histoire, je dirais. Mmh. Donc, c'est trop dur.
Trop dur, ouais. Alors, hier, on a parlé de ce couple qui est né dans l'amour,
oui.
Et c'est suffisamment rare pour qu'on puisse quand même insister dessus, surtout à cette époque, et dans la famille dans laquelle il était issu d'une famille quand même traditionnelle, même s'il n'y avait pas de pratiques religieuses
oui.
assidues, je veux dire, il y avait quand même des traditions.
Il y a des règles qu'on ne peut pas
déroger.
Voilà, absolument. Absolument.
Et donc lui, ce mari, donc, comme on le disait, contre l'avis de ses parents. Et donc, il a rencontré sa jeune femme d'une manière assez... Ça aurait pu ne pas fonctionner.
Ah ben, tout à fait. Et il se trouve que ça a fonctionné. Il est tombé follement amoureux de cette femme. Et il prétend même que c'est elle qui l'a gardé en vie. Mais oui, c'est un...
Alors, ils se sont rencontrés comment ?
C'est sa marraine de guerre. C'est-à-dire, on entendait par marraine de guerre une correspondante qui vivait en dehors de la guerre et qui écrivait ou qui envoyait des paquets aux soldats qui étaient pris dans les tranchées. Et ça leur permettait d'avoir des nouvelles... Des nouvelles
du pays,
oui, si on peut dire, et voilà, et d'avoir de la compagnie, une compagnie féminine la plupart du temps.
Mais ça aurait pu être sa famille qui pouvait jouer ce rôle.
Ah ben, tout à fait, mais j'ai pas l'impression, j'ai pas entendu parler de correspondance avec sa famille.
Il y a eu ce lien,
Il y a eu ce lien, un lien très très fort et très. Et je dirais presque, pas coup de foudre, mais pratiquement. Parce que avant même de la rencontrer, il était fou amoureux d'elle.
Les échanges étaient quand même assidus.
Oui. Elle lui écrivait très très souvent. Elle écrivait très bien, et en plus d'une belle écriture. Et voilà, ça a suffi à exacerber son côté un petit peu romanesque, romantique, je dirais fleur bleue peut-être. Et puis peut-être que quand on est dans des conditions si difficiles, les choses prennent un aspect beaucoup plus dense.
À tel point qu'il a conservé, il conservait sur lui une lettre.
Ah oui, et
qui lui donnait énormément d'audace,
voilà, c'est ça.
Sur le champ de bataille.
Voilà, c'est ça, une photo. Alors qu'il voyait rien.
Oui. Alors d'ailleurs, à ce propos, il y a une anecdote que vous rapportez qui se passe en Syrie, où il arrive chez une personne de la haute société.
Oui, tout à fait.
Il voit un objet, alors bien évidemment, comme il ne voit rien ou très mal, il le prend dans ses mains
pour l'approcher
de ses yeux.
Oui.
Et son hôte croit que en fait il manifeste de l'intérêt et il finit par lui l'offrir.
Oui, mais c'est vrai. Ça, c'est pas. C'était dans le tempérament des Syriens, qui sont très très accueillants, très gentils, très généreux, et dans la, je dirais, dans la mentalité, plutôt la mentalité que le tempérament, du bassin méditerranéen, qui fait que tout ce qui est à toi est à moi, mais tout ce qui est à moi est à toi. Dans ce sens-là, c'est quand même sympa.
Alors que lui, en fait, il l'approchait juste de ses yeux pour mieux voir.
Bien sûr.
Et il a la surprise, quand il arrive chez lui, de le trouver en cadeau.
Oui, c'est
puisque
ça.
Puisque son hôte syrien a cru que c'était un fort intérêt de sa part.
Oui, exactement. Ah, oui.
Et cette correction, il n'a jamais réussi à...
Alors, très très tard. Très très tard, il a été opéré. Et il avait un peu peur, parce qu'il l'avait forcément idéalisée. Il n'arrêtait pas de lui dire qu'elle était belle, mais je ne sais pas ce qu'il voyait. Et, Et oui, il a été opéré, mais enfin, voilà, il la voyait un petit peu mieux.
Bon, il n'a pas été déçu pour autant.
Non, d'autant qu'il écrivait. Il écrivait, il a écrit à chacun de ses petits-enfants. Il arrivait à lire, mais je crois qu'il écrivait avec une loupe. Oui.
Et de même que
je
quand...
Je n'ai pas le souvenir, mais il me semble que c'est ça.
Et donc, c'est pour ça qu'il disait qu'elle l'avait maintenue en vie, sa marraine de guerre.
Ah ben oui, bien sûr, avec
puisque
sa photo.
Puisque c'est ce lien qui l'a fait tenir jusqu'à la sortie de la guerre.
Bien sûr.
Puis, la chance aussi a fait que... Eh bien, il est passé entre les balles.
Ah ben oui, lui, oui.
Et surtout à côté de la mort, quoi.
Oui, c'est ça, absolument.
Donc, je rappelle le titre de votre livre, « Les fleurs du passé renaissent parfois ». Et c'est aux éditions L'Harmattan. Et nous, on se retrouve demain pour continuer à parler de ce roman. À demain.
À demain.
Cécile Marcadet, Les fleurs du passé renaissent parfois. Malgré cela, Églantine n'arrivait pas à se détacher de cette histoire de sa famille. Ses nuits étaient hantées par des images morbides qui la faisaient se réveiller en larmes. Elle n'osait plus se coucher, craignant de retrouver ses fantômes. Alors, elle devint neurasthénique, marchant des heures dans Paris, sans but, le nez au vent. L'air s'était réchauffé, il y avait comme une atmosphère de fête dans la ville qui s'alanguissait. Des fenêtres s'échappaient des musiques qu'elle ne supportait pas. Rien ne lui plaisait. Paris transpirait et elle détestait sa moiteur. Apercevoir les couples tendrement enlacés l'exaspérait. Le parfum des fleurs lui donnait mal à la tête. Elle ne supportait plus de se regarder dans une glace. Elle feuilletait un magazine qu'aussitôt elle rejetait, indifférente à ce qui la faisait frémir quelques jours avant. Elle ne supportait pas le moindre bruit et dormait toute fenêtre hermétiquement close qu'elle n'avait pas l'envie ou peut-être seulement l'idée d'entrouvrir dans la journée. Elle voyait sans cesse les images d'horreur qu'elle avait imaginées en contant l'histoire familiale de son grand-père. La nuit, elle se réveillait en sueur, essayant d'échapper à la vision des camps tels qu'ils avaient été racontés à Yad Vashem. Dans ses cauchemars, une image ignoble revenait sans cesse. Celle de son grand-père en Mater Dolorosa, un casque sur la tête recouvrant le voile, tenant dans ses mains son ami blessé. Tous deux portaient le masque de la douleur extrême. Un long cri sourd s'échappait de sa poitrine, tandis qu'elle se dressait sur son séant pour échapper à cette vision lancinante qui la poursuivait. Églantine se consumait. Elle n'avait plus foi dans sa bonne étoile. Son enthousiasme s'était effrité. Ses parents finirent par s'inquiéter de n'avoir aucune nouvelle depuis près de 2 semaines. Ils n'étaient pas habitués à un tel silence. Son père avait beau se répéter que « pas de nouvelles, bonne nouvelle », il n'y croyait pas vraiment. « Juste bon à calmer les simples d'esprit », estimait-il. Alors, un jour, pareil à tous les autres, chaud et pesant, il se décida à téléphoner à sa fille. N'ayant obtenu aucune réponse, il enfourcha son vélo et fit une descente chez Églantine sans même s'assurer de sa présence. C'était prendre un risque, car elle pouvait avoir été prise d'une frénésie d'errance et elle risquait de s'être décidée à faire une de ces balades vagabondes dont elle avait le secret en ce moment. Elle n'était pas venue très souvent chez Églantine, qui tenait à sa liberté, et hésita devant l'immeuble, ne sachant plus très bien quel numéro choisir. Des fenêtres closes le décidèrent intuitivement. « Je suis certain que c'est Églantine qui laisse ses fenêtres fermées. »« Que lui arrive-t-il ?» Qu'est-ce que tu fais là, papa ? » Églantine apparut derrière son père, de retour d'une de ses balades marathon. « Je venais aux nouvelles puisque tu ne réponds pas à mes appels. » »« Monte alors, puisque tu es là. » Églantine et son père pénétrèrent dans un appartement sombre, malodorant, qui le fit frémir d'horreur en même temps que d'inquiétude. Il ne reconnaissait pas sa fille dans ce comportement tellement inhabituel. Elle, d'ordinaire si pétillante, restait prostré à l'entrée, les yeux dans le vague. Poussant quelques nippes, il s'assit sur le canapé et, ému, attira sa fille contre lui. « Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Chuchotait-il. Il la berça, comme lorsqu'elle était toute petite et qu'un gros chagrin restait bloqué au bord de ses yeux. Ils restèrent ainsi, enlacés, sans plus parler. Il écouta le cri qui ne voulait pas sortir. Il entendit le son de sa souffrance, sans comprendre. Il attendit, patient et malheureux de ne pouvoir la soulager. Mais elle restait de marbre, sans émotion, murée dans son mal-être, indifférente aux gestes affectueux de son père. Alors il changea d'attitude. Délaçant sa fille, il lui tourna la tête pour essayer de capter son regard. Il aurait voulu plonger au plus profond de ses yeux pour tenter de comprendre ou tout simplement forcer un barrage au-delà du voile opaque qui semblait envelopper son regard. Rien, rien ne frémissait. Pas la moindre étincelle de folie. Rien. Il huma son haleine, se demandant si elle n'était pas sous l'emprise de quelque drogue qui lui anéantit ses réflexes. Mais il ne trouva rien. Rien. Où étaient passés ses mouvements d'exaspération, son impatience, son envie d'aller au bout de tout ? Rien. Pas un mot. Pas un geste. Pas un regard.
Place à la lecture dans Il était une fois un livre.
Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était un assez de ça.
Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.